Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Radio Courtoisie, cette émission prolongation. Vous pouvez retrouver toutes les deux semaines de 21h30 à 23h sur l'antenne de Radio Courtoisie. Radio Courtoisie qui est la radio qui promeut toutes les droites et qui promeut évidemment le débat d'idées, la réflexion. Ce soir, plusieurs thèmes seront abordés en cette veille de Pentecôte, de week-end de Pentecôte. Nous allons aborder évidemment ce phénomène qui, chaque année, fait de plus en plus de bruit et surtout rassemble de plus en plus de pèlerins. C'est évidemment le pèlerinage de Chartres qui annonce, je crois, plus que complet. Mais j'imagine, Pierre, que vous aurez des choses à nous dire là-dessus, puisque vous avez été régulièrement sur ce pèlerinage en tant que communicant, mais aussi en tant que pèlerin. Évidemment, l'actualité présidentielle, tout s'active encore aujourd'hui. Combien surprenant, mais Gabriel Attal a annoncé sa candidature. Évidemment, j'étais dans le métro tout à l'heure et chacun en parlait. Et le raz-de-marée qui submerge aujourd'hui le cœur de Paris et en est évidemment touché. Nous parlons de tout ceci. Un autre sujet qui est un peu sous-jacent à cette présidentielle, c'est la capacité qu'Emmanuel Macron a eue à recaser ses proches dans les différentes institutions de la République en prévision d'un potentiel changement de pouvoir. Enfin, nous aborderons les nouveaux combats de la gauche. Alors, dans quel ordre, on verra évidemment en fonction des discussions que nous aurons ce soir. Mais nous aborderons aussi ces nouveaux combats de la gauche, ces combats qui sont aujourd'hui contre le canon français, des banquets qui rassemblent des Français qui veulent, pour le dire vulgairement, bouffer un coup et picoler entre amis. Mais aussi ces attaques un peu surréalistes à l'encontre du film retraçant les derniers jours de la vie de Samuel Paty, qui a suscité la polémique. Et enfin, si nous avons le temps, nous parlerons littérature, si tant est que nous en soyons capables autour de cette table, mais nous parlerons des dernières sorties littéraires, notamment d'un livre dont je vous parle en quelques mots, enfin de plusieurs livres dont je peux vous parler en quelques mots, Malaise dans la génération Z de Pierre Valentin, qui est sorti hier aux éditions Gallimard, qui est un livre qui parle notamment de la santé mentale de cette génération qui couve des années 90 aux années 2000, aux années 2010, cette génération qui est sujet évidemment et à la dépression et au mal-être et à la surconsommation de médicaments. Et d'ailleurs, on ne demande plus si on se sent bien, on se demande si on est déprimé. Donc je vous conseille cet ouvrage, mais aussi plus récemment le livre de Nicolas Pouvreau-Monti sur la question migratoire aux éditions Fayard, qui est un livre qui, je crois, a le mérite de s'arrêter, de prendre le temps de comprendre les phénomènes migratoires qui touchent notre pays et plus globalement l'Europe depuis des années. Enfin, nous parlerons, et un troisième livre que je n'ai pas encore lu, donc l'honnêteté m'oblige à le dire, mais celui de Tuduel Denis, journaliste et surtout directeur de Valeurs Actuelles aux éditions Robert Laffont, si je ne dis pas de bêtises, et qui est un livre qui, je crois, aura un grand succès. Et donc, je vous conseille, comme moi, de commander auprès de votre libraire, et évidemment pas sur Amazon, ce qui serait vraiment un grand péché. Chers amis, autour de la table, j'ai été un peu long, pardon. Nous avons la chance de ne pas avoir les chroniqueurs habituels, si ce n'est Pierre Galland qui est parmi nous. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Stanislas, bonsoir à tous.
Merci d'être là. Évidemment, fidèle au poste, contrairement à d'autres, on va citer quand même Étienne Darjac, qui pour de mauvaises raisons...
Qu'on n'a pas vu depuis très longtemps sur ce plateau, si je puis rappeler à nos auditeurs.
Personne ne s'en souvient d'ailleurs de qui est Étienne Darjac.
Oui, c'est un chroniqueur qui était là dès la première saison.
Ouais. Qui sera sûrement pas la prochaine.
Parfois ici cette année et de moins en moins malheureusement.
On pense ici heureusement, je ne sais pas. Emmanuel de Beaumune
également.
Excusé pour le pèlerinage de Chartres où il le fait lui dans le sens inverse. Donc il est plutôt en route vers Chartres ce soir. Je pense évidemment à Hippolyte Laure Blanchet, mais qui pour des raisons migratoires est aujourd'hui plutôt en Asie. Je pense également à Alexandre de Galzin, mais qui a comme excuse d'être là à peu près toute la journée, et donc je crois que pour la bonne santé mentale de nos auditeurs, il est de bon ton qu'ils prennent une pause. Je pense aussi à Édouard Lavollée qui... je pense très peu à lui en règle générale, mais qui n'est pas là non plus. Et pour sa première, Côme de Bréval. Bonsoir Côme.
Bonsoir Stanislas, bonsoir à tous.
Merci d'être là parmi nous, c'est votre première, donc c'est ta première, on va se tutoyer ce soir dans cette émission. Merci Côme d'être là et de renforcer cette équipe de chroniqueurs. Peut-être pour commencer, et justement, comme c'est un sujet sur lequel tu as travaillé récemment, c'est la candidature de Gabriel Attal, mais sous le prisme d'une comparaison étrangère, une comparaison politique d'un autre pays européen.
Tu dois avoir des journées passionnantes pour travailler sur la candidature de Gabriel Attal, si je peux me permettre. Je ne sais pas qui t'emploie et qui te fait travailler sur ce genre de sujet, mais c'est quand même un patron bien vicieux, si je puis me permettre.
J'ai des patrons qui m'obligent à travailler sur des choses horribles. Non, effectivement, Gabriel Attal donc, s'est déclaré candidat aujourd'hui. Certains ont comparé sa déclaration de candidature à celle de Jacques Chirac, mais en réalité, il a l'air plutôt de s'inspirer de celle d'un étranger, du tout nouveau Premier ministre néerlandais, Rob Jetten, qu'il est allé voir en mars, donc peu de temps après la prise de fonction de Rob Jetten, et qui semble beaucoup l'inspirer, parce que déjà, il se ressemble beaucoup. Rob Jetten a été élu à 38 ans, et c'est l'âge que Gabriel Attal aura l'année prochaine. Ils sont donc tous les deux plutôt jeunes, ils ont tous les deux fait globalement que de la politique dans leur vie. Rob Jetten a un petit peu travaillé avant de faire de la politique, mais pas tant. Et ils sont aussi tous les deux homosexuels, et tous les deux centristes. Et Gabriel Attal s'en inspire beaucoup, et dès en fait, sa déclaration de candidature, on le reconnaît. Les thèmes de campagne de Rob Jetten, étaient l'optimisme, étaient aussi le vouloir récupérer le patriotisme, et de pourfendre les extrêmes, qui proposait que du négatif, et en particulier aux Pays-Bas. Geert Wilders, qui était très puissant, qui avait remporté les élections précédentes et qui était largement en tête des sondages, qui était à plus de 30%, ce qui peut nous faire penser à un autre candidat en France. Et un autre candidat...
Qui est Jordan Bardella,
qui est Jordan
ou Marine
Bardella,
Le Pen.
Ou Marine Le Pen, effectivement. Et a fortiori, Jordan Bardella, où Gabriel Attal essaye de se mettre en opposition en symétrique de la raison et centriste.
Pour continuer un peu sur le sujet de Jetten et de l'inspiration que Gabriel Attal pourrait avoir, ce qui est intéressant dans ce dont vous me parliez hors antenne, c'est que Geert Wilders, donc, qui est allié avec le Rassemblement National au niveau européen, si je ne dis pas de bêtises, a donc commencé à 30%, mais surtout les courbes se sont inversées, alors qu'il avait une avance phénoménale, il finira autour de 17%.
C'est ça, entre 16 et 17%, tandis que Rob Jetten, qui est terminé 5e 2 ans avant des élections et qui était plutôt en queue du scrutin est arrivé donc premier avec quelques dizaines de milliers de voix supplémentaires, mais quand même premier, ce qui lui a permis de devenir Premier ministre. Et donc le slogan de Rob Jetten était Ed Canoël, je parle pas néerlandais mais c'était quelque chose comme ça.
Vous le prononcez très bien.
Et qui signifie pour nos auditeurs qui ne parlent pas forcément tous
Pierre et moi
néerlandais.
Parlons couramment néerlandais.
Exactement, donc je ne vous ferai pas l'affront de traduire pour vous parce que je vous laisse sur vos sujets.
Mais donc qui signifie, alors c'est difficile à traduire, mais c'est possible ou tout est possible et qui s'inspire clairement de Barack Obama. Et au moment où Gabriel Attal a déclaré sa candidature, la première chose qu'il a dite presque était tout est possible. Et ensuite il a enchaîné une tirade sur l'optimisme et ensuite une tirade sur le patriotisme, c'est-à-dire complètement les thèmes de Rob Jetten.
Et peut-être, évidemment, Pierre, tu réagiras dans la foulée sur ce qui t'a inspiré un peu ce lancement de campagne, mais même la stratégie.
Inspiré est un bien grand mot.
Est un bien grand mot, mais si tu globalement t'inspires un peu cette guerre au centre qui est en train de se profiler et qui a déjà en réalité lieu. Mais est-ce que la limite de cette comparaison, ne réside pas justement dans la. Comment le dire ? Mais dans la. Dans l'habitus centriste, qui en réalité, et qui aime globalement de promettre toujours un monde meilleur, nous on est gentil, de s'opposer aux extrêmes, et en fait de passer non pas pour une solution viable, mais pour un recours face à des extrêmes de plus en plus puissants partout en Europe. Et d'ailleurs, au niveau européen, que ce soit en Italie, que ce soit en Hongrie, en Espagne, le centre progressiste est quand même en perte de vitesse globalement. Et puis, si je puis me permettre, mais Gabriel Attal, son virage patriote, ou en tout cas sur le régalien, il l'opère d'ores et déjà quand il est ministre de l'Éducation nationale, on s'en souvient avec la Baïa.
Justement, déjà, Rob Jetten est l'un des rares exemples de victoire du centrisme en Europe, donc c'est une source d'inspiration plus pertinente que de s'inspirer de ceux qui ont perdu.
Après, il y a plus proche que nous, Emmanuel Macron est un...
Oui, ou exactement.
C'est un centriste qui a quand même par deux fois gagné l'élection présidentielle en France, qui a été le président sous lequel a exercé poste ministériel Gabriel Attal. Donc on n'est pas forcément obligé d'aller chercher des exemples si loin.
Tu ne compares pas nécessairement Macron et Attal.
Ils n'ont pas exactement le même parcours. Emmanuel Macron est arrivé en politique pure assez tard. Et surtout, même dans la stratégie, donc vous parliez du régalien notamment, Rob Jetten et Gabriel Attal partagent le fait d'avoir tenté de se crédibiliser sur le régalien, notamment aux Pays-Bas où l'immigration est un sujet encore plus brûlant qu'en France, parce que notamment le gouvernement précédent était tombé à cause de ce sujet-là. Robbie Ayton a voulu vraiment montrer des gages, et de la même manière, Gabriel Attal a gagné en popularité au moment où il a montré les muscles sur les sujets régaliens d'immigration, et il continue à vouloir mettre en avant sa tirade « tu casses, tu répares, tu salues, tu nettoies », etc., qui met encore en avant sur son site qui est sorti aujourd'hui. Donc les deux partagent aussi cette stratégie-là de montrer qu'ils peuvent être plus sérieux que la droite tout en étant au centre.
Pierre, peut-être justement sur, je ne sais pas si vous avez pu suivre cette candidature de Gabriel Attal.
Alors j'ai suivi ça, là j'étais, pour tout vous dire à nos auditeurs, j'étais justement en train de regarder le site parce que je ne l'avais pas fait auparavant. Et la typographie, enfin l'environnement visuel du site me fait penser au site d'un média de gauche dont j'ai oublié le nom parce que je ne sais plus lequel c'est. Mais enfin j'ai eu l'impression de m'être trompé de site, donc bon, peut-être des inspirations de leur lecture, mais qu'importe. Non, pour revenir au fond, en effet, là j'ai le tweet de Gabriel Attal sous le nez où il dit en effet « Je refuse d'être de ceux qui ne proposent que de gérer le déclin ». Donc clairement, voilà, il se place dans cette posture qui est relativement nouvelle, je trouve, au centre, qui est de dire « On a compris que le combat, il se faisait quand même sur certains sujets ». Notamment le sujet civilisationnel, où il y a clairement deux blocs qui vont s'affronter. Un bloc qui est pour le remplacement de notre population, et un bloc, le bloc patriote, qui veut s'y opposer. Et sans forcément se positionner directement, soit d'un camp, soit dans l'autre, ils essayent quand même de faire entendre leur voix sur ces sujets-là, en proposant une sorte de troisième voie, on a un peu du mal à voir ce qu'ils mettent derrière, comme bien souvent dans le centrisme. Où ce sont beaucoup de paroles creuses, de grands slogans, enfin les fameux justement « tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies », oui bon très bien, mais en fait dans les faits, j'ai pas l'impression que les mesures aient suivi derrière pour en effet mettre en pratique ce genre de slogan. Et c'est vrai qu'on est, de plus en plus habitué à ce genre de paroles très creuses, et même d'ailleurs la mise en scène du discours, il parle devant sur une place d'une petite ville ou d'un village de l'Aveyron, avec devant lui, je pense, peut-être 80 personnes grand maximum, dont la moitié de journalistes. La vidéo était en direct sur les réseaux sociaux, il y avait 80 personnes. Enfin,
ah ouais, il y avait 80 personnes sur les réseaux sociaux.
Sur Facebook, en tout cas, sur la partie Facebook, pendant l'annonce, ah, il y avait 83 personnes. Pour avoir le chiffre exact, donc je vais pas regarder tous les réseaux sociaux les chiffres, mais bon, ça donne quand même un indicateur du néant, même au-delà du fond, du néant même que cela représente. Et vous ironisiez sur le fait que tout le monde en parlait dans le métro, évidemment.
Mais c'était évidemment une boutade.
Évidemment que c'est
précise.
Oui, je pense que nos auditeurs auront compris. C'est l'expression du vide et qui continue, et on avait déjà l'impression d'avoir touché des fonds avec Emmanuel Macron. On se disait, mais de temps en temps, enfin, il nous sort des très belles phrases, et sur la com, il est très bon, Emmanuel Macron, il sait réagir sur certaines choses, il peut être extrêmement réactif d'un point de vue com, mais derrière, en fait, quand on réfléchit, on se dit, oui, mais très bien, c'est des beaux slogans, mais derrière, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi. Et on se retrouve avec des grands slogans, des paroles creuses et des politiques qui font plus de communication que d'action derrière. Non pas que la communication ne soit pas importante, au contraire, mais il faut qu'elle soit au service de l'action et pas l'inverse. Et donc là, c'est vrai qu'on voit un Gabriel Attal qui lance ça dans, en plus, un vendredi après-midi, je sais plus à quelle heure il l'a lancé, c'était dans la...
14h environ.
Ouais, ça, vers 13h22, le tweet, enfin voilà. Un vendredi midi, enfin globalement, alors les
veille
gens...
Une veille de Pentecôte, c'est vrai que c'est un peu...
Bah ça, les gens, un vendredi midi, pardon, les Français travaillent, ils ont autre chose à faire que de regarder la déclaration de candidature de Gabriel Attal. Il y a un match ce soir, il y a eu des violences...
Il y a un match de quoi ce soir que...
Il y a la finale de la Coupe de France... Je crois que c'est la Coupe de France, si je ne m'abuse. J'avoue que je suis très peu assidu sur le football.
Il y a un match, peut-être au Parc des Princes.
C'est au Stade de France.
Ah, ouais, oui, tant mieux.
Tout va bien, on n'en aura pas.
On est tous ravis ici chez Radio Courtoisie. On pourra tous rentrer chez nous.
Non, c'est la finale au Stade de France entre Lens et Nice, si je ne m'abuse. Mais donc, il y a quand même des actualités, si vous voulez.
Petite parenthèse, Nice ou Lens ?
Alors, Lens est... ultra favoris puisqu'ils sont arrivés deuxième et Nice est bien plus loin derrière.
Pas d'avis, quoi.
Mais j'ai globalement à peu près aucun avis à part ça.
Et vous, Claude ?
Ça fait longtemps que j'ai arrêté de suivre le football de manière assidue, mais Nice a basculé dans le bon sens en mars, ce qui n'est pas le cas de Lens, donc Nice.
Vous voulez parler de Monsieur Ciotti?
Alors peut-être justement pour reboucler sur la pour peut-être sortir du cas simplement du cas de Gabriel Attal et de simplement de son lancement de campagne. Ce qu'on voit depuis quelques semaines désormais, c'est cette multiplication des candidatures et à l'élection présidentielle de façon générale, mais particulièrement au centre, parce que je vous le dis de façon générale, puisque Nathalie Arthaud s'est elle aussi annoncée candidate aujourd'hui sur France Info, séisme politique également.
Ben vous
ouais,
me
je vous
l'apprenez,
l'apprends,
cher
écoutez, prenez
Stanislas.
sur l'info avec Prolongation et Radio Courtoisie, mais
Et je pense que nos auditeurs l'apprennent par la même.
ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'évidemment, on comprend les enjeux des uns et des autres de s'imposer, d'avoir la meilleure communication possible pour écraser le match. On en parlera tout à l'heure avec l'aspect sondagier, qui est aujourd'hui très important. Simplement, que ce soit Bruno Retailleau, que ce soit Xavier Bertrand, que ce soit Laurent Wauquiez,
Laurent Wauquiez n'est pas
comment ça s'appelle?
officiellement
Non,
candidat.
mais que ce soit David Lisnard ou d'autres, ce qui est quand même frappant, c'est le manque d'originalité, hormis Mélenchon peut-être, qui a fait et je sais que vous, comme vous avez aussi un peu regardé ce sujet-là, une candidature intéressante avec sa stratégie des nouveaux médias. On va peut-être en parler dans quelques instants, mais comment analysez-vous, Pierre, voilà, cette candidature ratée aussi de Bruno Retailleau, qui objectivement a fait un flop 10 heures avant, tout le monde était au courant de son plan presse. Enfin, c'est-à-dire que n'étant ni proche spécialement des Républicains, ni de qui que ce soit dans cet appareil-là, globalement, dès le matin, on savait qu'il allait faire le Figaro, TF1, puis un entretien un peu long chez Darius Rochebain avec un papier coulisse. Alors qu'en 2022, il me semble, ce n'est pas si lointain que ça, ou même 2017, que ce soit par le biais de primaires, qui mine de rien lançait la présidentielle de façon intéressante, permettait un peu de parler de fond, de voir des nuances dans les différents camps. Avec un Emmanuel Macron qui, en 2017, crée la surprise, ou en tout cas, attaque frontalement son propre camp, en l'occurrence celui du Parti Socialiste à l'époque, que ce soit Marine Le Pen, qui a toujours eu sa stratégie de ne jamais s'annoncer et d'imposer pardon, sa candidature aux Français, ou encore Éric Zemmour, qui, à l'époque, avec son clip vidéo, qui était une première, en réalité, de choisir ce canal-là pour exprimer son message aux Français. Là, on est quand même globalement sur du très très bas de gamme.
Bah, je pense qu'il y a deux choses, et surtout la comparaison avec 2022. Là, j'avais la discussion hier soir avec une personne qui travaille donc dans le monde politique et qui me disait les comptes de campagne en fait sont déjà
Ah
ouverts.
bien sûr, oui. Un an
Et
avant.
c'est vrai,
Et
oui, en fait.
comme en 21-22, hein, cher Pierre.
Non, en 21-22, ça avait ouvert
Oui, bah après les
qu'en
régionales.
septembre. Exactement, parce
Non,
qu'il y avait les régionales avant.
ça a ouvert le lendemain des régionales, ou le 1er juillet.
Oui, mais enfin, ça avait ouvert un peu plus tard,
Oui,
je n'ai
on
plus la
est
date
assez,
exacte,
on est dans un mois en
mais
juillet.
globalement, si vous voulez, la campagne présidentielle s'était lancée qu'à partir de septembre, à proprement parler. Les gros des candidatures étaient tombés à ce moment-là. Là, j'ai l'impression qu'on arrive dans un.
Bah, raison de
Enfin, en
plus de
tout
ne
cas,
pas
c'est.
se lancer avec les comptes ouverts. Raison de plus de ne pas se lancer avec les comptes
C'est
ouverts.
rétroactif
Ah oui, non
même.
mais.
Oui, c'est rétroactif dans
Oui,
tous les cas.
enfin, pas un an avant. Par exemple, si je vous prends un cas, je fais un petit peu, celui d'Éric Zemmour. Le premier déplacement qu'il fait à la campagne ou en campagne, etc. Ça, c'est pas des dépenses de campagne. Ce qui a commencé, par contre, non, bah, pas celui-ci. En revanche, ce qui est compté, oui, c'est les affiches Zemmour président qui sont collées. Parce que c'est explicitement une demande présidentielle. Les déplacements Éric Zemmour ou par exemple son temps de parole n'a pas été décompté rétroactivement. Ses déclarations non
Tout à fait.
plus, ses frais non plus. Voilà, enfin, je veux dire, il n'y a pas de.
Mais
Et Dieu
donc,
merci, enfin, je veux
oui,
dire.
non, mais bien sûr. Mais donc, pour revenir à ce
Ah
que je
sinon,
disais, je
tout le monde
pense.
serait ruiné, sinon.
Mais le temps de
Ouais.
parole spécifiquement de la campagne présidentielle, je crois qu'il commence en janvier.
Oui, tout à fait, mais je veux dire, s'il n'y a pas de rétroactivité sur les activités, s'il y a eu des
Oui.
dépenses engagées, si par exemple. Enfin, voyez, je veux dire, c'est que ce déplacement, pourquoi je vous parle de ce déplacement? Parce qu'il ne coûte pas grand-chose, hein, je pense qu'il s'il a coûté 250 euros, c'est le maximum. Simplement, il n'est pas compté dans les comptes de l'Allemagne.
Mais donc pour revenir à ce que je disais, je pense que déjà il y a aussi, au-delà des bides un peu à répétition de toutes les annonces de candidature, parce que mine de rien, même les médias en parlent 24 heures, et
À peine.
ensuite ça s'essouffle quand même très très vite, c'est aussi parce que les Français en ont rien à carrer, je pense, pardon pour l'expression un peu familière. Aujourd'hui, les Français, ils sont pas là à se dire, ah tiens, l'élection présidentielle. Ils se disent, je paye mon carburant 2,30 €. J'ai une insécurité grandissante de partout. Enfin, les priorités, je pense, des Français ne sont pas encore à l'élection présidentielle, qui paraît très lointaine pour le moment. Et je pense que ce n'est que justement après l'été, ou en septembre, octobre, novembre, décembre, que déjà ça commencera à monter, parce que mine de rien, ce sera dans seulement quelques mois à ce moment-là. Et avant ça, à mon avis, je pense vraiment que Pourtant, Gabriel Attal est quelqu'un qui maîtrise bien la communication, et c'est un bon communicant pour... Enfin, dans le bloc central, je pense que c'est le meilleur
Ah oui,
communicant.
c'est votre favori?
Favori, non, mais objectivement, c'est un de ceux qui communique le mieux dans ce camp-là. Il a compris comment manier les réseaux, et il le fait, je trouve, très bien. Voilà,
Enfin, il est très gênant, je trouve.
Oui,
Peut-être
mais
comme la...
parce qu'il est centriste et que
Non,
c'est...
même... Bah, à la fois, on
Il
sent qu'il
s'adresse pas au
maîtrise.
même public, enfin, en fait...
Il est bon sur TikTok, sur Instagram, je trouve que ça devient vite gênant, mais peut-être comme là-dessus,
J'avoue que
sur...
je n'ai pas les notifications sur le
Non
compte de
plus,
Gabriel Attal, donc je
mais
ne regarde pas
il
tous
est
ces...
important de se renseigner sur,
Non mais bien
sur
sûr,
des adversaires putatifs. Enfin, même
mais...
si on est apolitique ici, évidemment, mais il y a
Bien
partisan.
évidemment.
Comme peut-être sur la communication globale de ces candidats et de leurs entrées en campagne, plus ou moins réussies.
Bah c'est vrai que dans le cas de Gabriel Attal, c'est très décevant parce qu'il nous a habitués à être très bons et que tant dans la mise en scène aujourd'hui que sur les réseaux sociaux, c'est pas au niveau de ce qu'on pourrait attendre de lui.
Vous
Et sur la...
attendez beaucoup de lui.
Oui, j'ai beaucoup d'attentes pour notre ancien Premier ministre. Mais sinon, sur la multiplicité des candidatures, en fait, je pense que Gabriel Attal avait besoin de s'assurer du soutien de Renaissance et que plus il attendait, plus il risquait de louper l'unanimité. Il y avait aussi le besoin pour le bloc central d'avoir une vraie opposition à Édouard Philippe. Et en fait, étant donné que tout le monde mise sur le fait qu'Édouard Philippe va s'effondrer, certains le font en se disant je prendrai sa place quand il s'effondrera. Tandis que je pense que Gabriel Attal est plutôt dans l'idée de je prends sa place directement s'il s'effondre, bah, c'est-à-dire que c'est l'autre qui a gagné, donc c'est lui le légitime. Et que comme il y a un vrai concours pour savoir qui va être le candidat légitime, l'héritier du macronisme sans être l'héritier de Macron, pour être le candidat du bloc central, c'était pas forcément sur la question du timing, une si mauvaise chose.
Pierre, peut-être pour conclure sur notre ami, nos amis centristes, évidemment, d'où
Je
tu viens,
pense qu'on
va.
est compliqué
Non, non,
de
non, mais
tenir si
c'est.
longtemps sur à parler de néant, mais non, mais je pense que voilà pour la oui,
Ah,
non,
allez-y. Non, mais
le
ce qui est important de.
Je vous trouve très taquin ce soir. Non mais voilà, la candidature de Gabriel Attal, je pense, est un événement pour la plupart des Français, enfin, si ce n'est pour l'immense majorité. C'est quelqu'un qui s'est fait remarquer et qui a été plutôt apprécié dans son action gouvernementale par rapport à d'autres, objectivement. Les Français, je pense, en gardent plutôt un bon souvenir, mine de rien.
Oui, vous êtes. Qu'est-ce qui se passe ce soir?
Non mais
Tu
il faut...
gardes un bon souvenir de Gabriel Attal?
Mais parce que justement, il a eu les Français qui s'intéressent pas forcément plus que ça à la politique, je pense, en ont gardé une image plutôt positive parce que
Ouais.
il a à peu près tenu la barque, il a eu deux trois bonnes
Bon
déclarations.
bah, sans le dire, on sait pour qui vous voterez en tout cas l'an prochain.
Ouf, c'est très mal me connaître, mais
Mais c'est d'autant plus fort que en plus son passage à Matignon se termine par un échec cuisant
Ah non
et tout le monde l'a oublié.
mais c'est ça, mais c'est là où il est bon, c'est que il a quand même réussi à
Enfin, il n'est
ne
pas
faire
très haut dans les
retenir.
études d'opinion, par exemple.
Non, mais je ne parle pas
Bah, par
d'études.
rapport à Édouard Philippe, par exemple.
Non, mais oui,
Mais
mais. Il fait
plutôt,
14% dans
je pense
certains
quand même
sondages
qu'il
quand
faut,
même.
ouais, il est à 4 points
Dissocier
derrière
le
Philippe.
bon souvenir qu'on peut avoir de quelqu'un en se disant, oh, Attal, oui, ok,
Un
why
bon
not?
souvenir, quand on est à 14% des sondages, et encore 14, c'est le max.
Ouais, mais il y a une différence entre dire, bon, il a été un bon Premier ministre ou j'ai envie de voter pour lui à l'année
Bah,
présidentielle
à
quand même.
l'inverse, là, vous tous, enfin, autour de ce plateau, ça sert pas grand monde, donc deux personnes. Plutôt très politisé, bon, tu vois, vous suivez assidûment l'actualité. Pour beaucoup de personnes, il a fait 6 mois à Matignon. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui aient un grand souvenir de Gabriel Attal en réalité, en tant que Premier ministre en tout cas.
Non,
Peut-être
mais
plus sur le budget ou
est-ce que
l'éducation
vous vous
nationale.
souvenez de quelque chose de mal qu'il a fait?
Ah, je crois que l'émission ne serait pas assez longue pour lister le
Bah non,
mal que
mais
Gabriel Attal
listez-en
a fait au
quelques-uns.
pays. Bah, ne serait-ce que l'occasion des élections européennes, où Gabriel Attal a promu notamment un débat face à Jordan Bardella. Une vision des frontières qui est absolument cataclysmique. Qu'est-ce qui s'est passé en 2024?
Mais
Oui,
c'est pas
comme.
des éléments tangibles qu'on peut
Bah, alors,
lui
s'il a fait six
opposer. Mais
mois,
ça,
donc.
c'est... Darmanin, on pense
En
directement au
fait,
Stade de
ce
France, par
sont pas
exemple. Ce sont
forcément
des
Darmanin, il y a
éléments
10 ans.
bilan. Non, mais ça...
Enfin,
Mais en fait,
Darmanin,
pour...
justement, Darmanin, il a beaucoup de défauts et beaucoup, beaucoup aussi, mais il a 10 ans. Gabriel Attal, la situation économique, et à l'inverse, Il n'a pas pu faire grand-chose en 6 mois, mais il a rien. Qu'est-ce que vous retenez de 6 mois de Gabriel Attal?
Mais justement, mais en fait, rien. On retient rien, mais dans un sens comme dans l'autre.
Bah donc, donc je pense pas que les gens gardent un bon souvenir, on garde pas un bon souvenir du rien.
Non, mais en tout cas, ils n'en gardent pas un mauvais, et c'est déjà un premier pas qui est, je pense, très important dans une course à la présidentielle, c'est de ne pas avoir déjà à commencer par convaincre qu'on n'est pas si mauvais. Il va juste avoir besoin de convaincre sur un programme, sur un projet. On pourra lui faire des procès de pourquoi vous l'avez pas fait quand vous étiez au pouvoir. Ça fait depuis 10 ans que son bloc est au pouvoir.
Bah oui, et lui est au pouvoir.
On pourra lui faire
aussi
beaucoup de procès là-dedans, évidemment. Mais il pourra toujours se défendre de c'est pas moi, moi j'ai toujours pris mes distances. Et d'ailleurs, on le voit depuis.
J'ai toujours pris mes distances.
Depuis quelques mois, il le fait de façon grotesque. Et d'ailleurs, je trouve très, très hypocrite où il prend ses distances vis-à-vis d'Emmanuel Macron.
Tout en modérant son propos.
Non, mais c'est pour ça que je dis qu'il le fait de façon très hypocrite et très ingrate, parce que mine de rien, sans Emmanuel Macron, il serait quand même pas grand chose, monsieur Attal. Et donc,
ah oui, c'est Macron surtout.
Bah, c'est sûr. Et donc, il va essayer de jouer sur la carte de non, mais c'est pas mon bilan. Et objectivement, il pourra le faire parce que.
Non,
ce ne seront pas ses actions à lui. Après, je pense que les Français ne sont pas dupes.
Quand on va faire le bilan de la Baïa, après on va changer de sujet, mais quand on va faire le bilan de la Baïa, ça n'a pas fonctionné, on va s'en rendre compte. Quand on va faire le bilan de son SNU flingué, on va s'en rendre compte. Quand on va regarder, quand il était au budget, son passage au budget, l'état du budget en France aujourd'hui et de ses finances, elles sont catastrophiques. Quand on va regarder, même ne serait-ce que ses actions, on le voit en fait sur le programme.
Mais c'est là où je suis d'accord.
À part ouvrir sur la GPA,
si on va regarder sur le fond, l'impression globale n'est pas forcément si catastrophique. Et je pense que, mine de rien, c'est déjà un bon point. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, il s'est vautré complètement.
Avant définitivement de changer de sujet, en tout cas de parler justement de ce sujet qui est important et dont nous allons parler quelques instants, des sondages, peut-être en quelques mots et en quelques noms surtout, hormis Attal et Philippe, quel candidat voyez-vous émerger au bloc central, s'il y en a? Et surtout, selon vous, à l'heure actuelle, y a-t-il des candidats capables de créer une vraie surprise? Parce que si on prend
le bloc central,
c'est peut-être à vous de redéfinir vos convictions politiques, cher Pierre, mais moi, il est clair, le bloc central.
Est-ce que vous considérez que central, des LR font partie du groupe central, qu'un Glucksmann peut être attaché au groupe central?
Certains LR, oui, Jean-François Copé, il n'y a pas trop de doute sur le fait qu'il appartienne au bloc central.
Il y a débat.
Retailleux, il y a
non, mais donc pas uniquement le camp macroniste.
Philippe, c'est pas du macroniste, vous voyez.
Non,
et si tant est que certains puissent aussi créer la surprise hors bloc central et peut-être jouer une carte qui n'est pas annoncée aujourd'hui. Certains parlent par exemple de Jean Castex. Comme.
Alors, Jean Castex, j'ai pas la vision, comme on dit, mais Gérald Darmanin.
Personne ne dit ça.
Ceci alors, dit, personne non plus ne parle d'une candidature de Jean Castex.
Je vous invite à lire la presse plus régulièrement. Mais...
À l'époque, Gabriel Attal était pro-candidature de Jean Castex, pour l'anecdote. Et je pense qu'il espère que maintenant sera l'inverse. Et pour le coup, ce sera un bon coup de la part de Gabriel Attal d'avoir Jean Castex derrière lui. Mais sinon, Darmanin, pour le coup, c'est une analyse qui revient beaucoup, mais ça reste un candidat redoutable qui peut vraiment créer la surprise.
Pierre, peut-être en un mot.
Est-ce que ce serait vraiment une surprise Darmanin déjà? Jean Castex, j'ai du mal à voir. Enfin, je pense pas, et il va peut-être me donner tort dans pas si longtemps, je ne sais pas. Mais il faut. Enfin, là, il a quand même un bon poste aujourd'hui, qui je pense l'intéresse d'ailleurs. À mon avis, il est heureux d'être sorti un peu de ce monde politique.
Ça, Darmanin?
Non, Castex.
Ah oui, pardon, je vous parlais encore de Darmanin qui était heureux de sa situation actuelle. Oui, oui.
Ah non, oui, bon,
ça me paraissait un peu étrange.
Bon, ouais. Il ne doit pas être malheureux d'être ministre, monsieur Darmanin.
Non, je crois qu'il serait plus heureux du président de la République. Mais...
Ça, il y en a d'autres. Mais donc, non, Jean Castex, je le vois pas forcément ressortir dans l'arène politique parce qu'il n'y aurait aucun intérêt que. Franchement, il est bien là où il est et il n'a pas besoin
Vous êtes un proche de Jean Castex, c'est-à-dire qu'il faut nous informer de ça.
Pas du tout, mais simplement, voilà, c'est le. Je pense que, voilà, à sa place, je ne vois pas ce qu'il y trouverait. Et sur d'autres noms potentiels, je pense qu'en effet, à part Édouard Philippe, Jean Castex, à voir aussi côté centre. Bah si, Dominique de Villepin, quand même, qu'on n'a pas mentionné dans ce bloc-là. Qui fait semblant de ne pas le dire, mais qui le dit dès qu'il fait un plateau, qui sera candidat, enfin en tout cas qui veut l'être. Voilà, c'est ce genre de personnalités qui sont presque parfois inclassables aussi. Qui vont se battre entre eux, parce que j'ai du mal à croire qu'à la fin il en reste deux de ce bloc-là qui soient en face, parce qu'ils savent que ce serait invivable d'avoir deux candidats centristes, et donc ils vont se régler leur compte à coup de sondage, à coup de ralliement probablement, et puis ce sera un combat ennuyeux et ennuyant.
Sur peut-être le sujet qui est du côté de la France insoumise a été l'occasion d'une commission d'enquête, mais c'est la place des sondages. On va parler quelques instants avant de discuter peut-être encore plus de la France insoumise avec les nouveaux combats qu'ils portent au quotidien. Mais sur cette place que les sondages occupent, je sais que certains, à l'occasion de la campagne de 2022 et à l'occasion de cette fameuse commission d'enquête, voulaient remettre en cause leur existence, ou en tout cas les réglementer davantage pour, en tout cas c'est ce que certains voulaient mettre en avant, limiter leur champ d'action et surtout les arrêter à une période donnée de l'élection présidentielle, puisque selon beaucoup, ils seraient en réalité des prophéties autoréalisatrices, puisque mettant un candidat à 17, un autre candidat à 13, un vote utile mécanique peut se mettre en place en se disant, bon bah, puisque de toute façon il est donné à 17, je vais pas voter pour celui qui est annoncé perdant. Et c'est ce qui a longtemps été reproché, certains clans notamment, du côté de la France Insoumise, mais aussi d'une certaine façon de Reconquête ou DLR, de dire, bah, ces sondages-là, ils sont très bien, certes, mais en même temps, ils favorisent ceux qui ont une avance à un instant T. Peut-être comme si vous, qui, je sais aussi, êtes passionné de sondages, est-ce que vous considérez aujourd'hui que les sondages sont un problème, un obstacle démocratique, et est-ce qu'ils faussent le jeu en réalité?
Je pense pas que ce soit un obstacle en tant que tel, et de toute manière, c'est le jeu de la démocratie que chacun puisse faire ce qu'il veut. Enfin, s'il y a des personnes qui veulent interroger des gens et faire des calculs mathématiques pour faire des sondages, ça les regarde. Est-ce que on pourrait revenir à une loi qui existait avant, il me semble, d'interdire les sondages dans les deux dernières semaines du scrutin ou des choses comme ça, parce que on voit clairement que les résultats finaux, en particulier des présidentielles, suivent la courbe des sondages, mais en les amplifiant. C'est-à-dire qu'il y a un vrai impact. Et l'autre jour, je parlais avec une amie qui est franco-péruvienne, qui devait donc voter à l'élection présidentielle du Pérou. Et donc je lui dis, mais donc tu sais pour qui tu vas voter? Elle me dit, mais non, j'en sais rien, il y a 20 candidats, ils sont tous entre 0 et 5% dans les sondages. Je vais pas m'amuser à m'intéresser à 20 candidats. Alors que s'il y en avait 5 qui étaient chacun à 10-15, elle aurait vraiment fait un choix parmi les 5. Et le fait, comme les sondages ne lui disaient pas vers qui se tourner, qui étaient les principaux candidats les plus sérieux et dont il était important de regarder le programme, en réalité, elle était perdue. Donc ça, c'est sûr que les sondages ont un énorme impact. Les interdire, non. Les limiter dans la dernière ligne droite, pourquoi pas. Et après aussi, de toute manière, c'est la responsabilité de chaque électeur de savoir ce qu'il fait entre les convictions, la stratégie et le cœur et la raison.
Moi, si vous voulez, je ne suis pas forcément plus inquiété que ça par les sondages, même si c'est vrai qu'il y a forcément un effet mécanique de vote utile, mais qui serait dans tous les cas rattrapé par autre chose ou à un autre moment. Enfin, je pense qu'il y a des dynamiques aussi qui peuvent s'installer. C'est à la fois un très bon indicateur pour les campagnes et les équipes de campagne d'avoir ces sondages-là, parce que ça permet de confirmer ou d'infirmer des sentiments de dynamique ou autres. Et puis surtout, ça peut aussi à la fois... imaginons, on les réglemente à la fin et on dit, voilà, pendant 2 semaines avant, il n'y a plus de sondage. Très bien, mais dans ce cas, en fait, ça va juste figer les votes de ceux qui ont besoin des sondages à ces sondages-là qui datent d'il y a 2 semaines. Et potentiellement, en fait, si il y avait eu des sondages qui avaient continué, les courbes se seraient complètement croisées ou il y aurait eu des dynamiques différentes. Donc, je pense que ça décale juste le problème. Aujourd'hui, il y a un silence électoral qui dure pendant les 24 heures qui précèdent le jour de l'élection. Donc les campagnes s'arrêtent le vendredi soir à minuit et plus aucune communication politique ne peut être faite dans aucun sens. Et je trouve ça déjà très bien. Et je suis pas sûr qu'on ait besoin d'aller plus loin sur les sondages. S'il y a des Français qui ont besoin de ça pour aller voter, je pense que c'est pas forcément un bon élément et un bon choix de vote. Mais encore une fois, ça les regarde et on va pas aller prendre par la main à tous les Français en vérifiant qu'ils aient bien lu tous les programmes, même si ce serait peut-être en fait surtout ça la solution.
Vous êtes en train de suggérer peut-être, Pierre, d'autoriser certains citoyens à voter et d'autres non?
Non, mais d'instaurer peut-être plus de responsabilité dans le vote en sensibilisant les... Faudrait voir comment faire, mais peut-être ça pourrait être un... C'est une idée qui me passe par la tête. Je ne sais pas du tout si ce serait faisable ou j'y ai pas réfléchi plus que ça avant, mais ça pourrait être, par exemple, voter sur des idées détachées d'un nom, par exemple, ou voter sur, enfin, sur le programme, et pas forcément, au lieu de voter pour tel ou tel candidat, je vote pour un programme de façon plus anonyme, même si quelqu'un qui aura lu le programme saura que c'est le programme d'un tel ou d'un tel, mais ça obligera peut-être à avoir...
Bon, là, on va faire la queue le dimanche, hein.
Non, mais...
Dire,
Voilà, non, mais évidemment, il y a aussi une question de faisabilité, mais je pense qu'il y a des moyens de faire en sorte qu'on parle un peu plus du fond et qu'on regarde pas juste avec les sondages. Et moi, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est quand on voit qu'aux dernières municipales, il y a 16% des Français qui ont utilisé l'IA pour leur dire quoi voter. Et quand on sait les biais immenses qu'ont un certain nombre d'intelligences artificielles de discussions dans leur façon de répondre et dans leur programmation, ça inquiète de savoir que des Français peuvent voter en faisant confiance à en fait une entreprise derrière qui peut influencer, même si les faits seront pas forcément faux ou ce que dit l'IA ne sera pas forcément faux factuellement, mais ça peut être présenté de façon très biaisée, voire complètement partielle.
C'est notamment la France insoumise qui est très, 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 très remontée contre les sondages, mais qui n'est pas seulement remontée contre les sondages ces derniers temps, puisque une grande partie de la gauche...
Ils sont souvent remontés, la France
ils
insoumise.
Ils sont globalement souvent remontés, c'est très juste, Pierre, mais il est vrai qu'ils sont très souvent remontés. Mais en ce moment, la gauche fait parler d'elle par des combats qui sont pour le moins étonnants et qui sont pour le moins polémiques. C'est-à-dire qu'il y a un grand sujet sur les luttes sociales qui peuvent... parfaitement idéologiquement parlant s'entendre, même si tout s'entend parfaitement idéologiquement parlant, mais en tout cas il y a des sujets qui sont des marronniers de la vie politique française depuis la nuit des temps et qui sont des sujets partagés, non pas sur les solutions, mais en tout cas sur les constats ou les thématiques par l'ensemble du camp politique, quand là, depuis maintenant plusieurs semaines, le Canon français, donc une association qui organise des banquets de plusieurs milliers de personnes, si je dis pas de bêtises, ils arrivent à rassembler pas mal de monde.
Je crois qu'au total, depuis le début de leur existence, ils revendiquent 100 000 personnes sur l'intégralité des banquets qu'ils ont organisés.
Donc ils devaient être 50 000 à peu près.
3-4 ans, je crois, d'existence.
Oui, c'est ça. Non, c'est long. Oui, voilà. Et avec en plus, je dis ça en rigolant, mais avec un vrai talent, puisqu'ils arrivent à rassembler une grande mixité d'âge, de sociologie. C'est-à-dire qu'il y a aussi bien des grands-parents, des seniors, des adultes, des familles. Enfin, il y a une ambiance qui est extrêmement conviviale. Ils font vivre autour d'eux les producteurs locaux de viande, de fromage, de légumes. Donc, il y a vraiment en plus une démarche qui est assez saine pour nos agriculteurs et pour nos artisans dans les différentes régions. Ils ont cette capacité en plus à faire ça dans tous les départements de France, ce qui renforce évidemment le lien social. Et patatras, la gauche s'empare de ce sujet, et notamment cette députée Emma Fourreau, que j'ai eu l'occasion de croiser par le passé, à l'occasion des élections européennes, je crois, en débat à La Roche-sur-Yon, où j'étais assez effaré de son niveau, mais bon, qu'importe. Elle alterne ses deux passions dans la vie, se faire renvoyer d'Israël sur ses flottilles en bois mouillées un peu désastreuses, une petite douche de temps en temps, un kéfir enlevé, et on va combattre contre le Canon français. Donc, il fait des activités, des semaines assez remplies, je le pense. Mais ils s'en en pas, et ils s'y prennent de façon assez violente, puisqu'encore à l'Assemblée nationale, il me semble que cette semaine, une députée.
Sarah Legrain.
Sarah Legrain, pour la citer, je ne sais pas qui c'était, mais a traité le Canon français de fasciste, enfin de fasciste, et vont même à essayer de les interdire. Alors peut-être, comme ou Pierre, si tout vous inspire,
au-delà de ça, même, la déclaration.
Et pour ouvrir le débat un peu plus long, pardon. De façon un peu plus ouverte, d'ouvrir le débat un peu plus largement. L'autre sujet d'actualité de la semaine, c'est quand même ce film sur Samuel Paty, qui est, alors, non pas par des partis politiques en l'occurrence, mais en tout cas par une partie de la gauche sur Internet, s'en prend de façon extrêmement virulente à ce film, expliquant qu'il est islamophobe, alors qu'il retrace de façon, somme toute, assez, de façon assez factuelle, il me semble, les derniers jours de Samuel Paty, et puis accessoirement, l'histoire ne fait quand même pas trop de doutes, puisqu'on le rappelle, pour nos auditeurs qui auraient pu l'oublier, Samuel Paty a été décapité par un musulman suite à une fatwa lancée par des parents d'élèves et des élèves.
Et une élève qui avait menti.
Et une élève qui a menti à ses parents. Comme peut-être sur ces nouveaux combats de la gauche.
Sur Samuel Paty, le simple fait qu'il y ait un débat aujourd'hui montre qu'en réalité, on a perdu. Enfin, le fait, non,
Il
mais.
est très défaitiste.
Non,
Allez-y,
mais.
allez-y, Joe.
Oui, bah, oui, assez défaitiste sur le sujet, parce que, effectivement, à partir du moment où la tête d'un professeur roule par terre dans la rue en France, on devrait être complètement unanime. Et il ne devrait pas y avoir trop de doutes sur la manière dont on traite les choses. Et on devrait plutôt avoir un moment à nouveau d'union nationale à la sortie de ce film, en se disant, effectivement, c'est un moment très grave et plutôt se questionner sur est-ce que le film retranscrit bien ce qui s'est passé ou pas. Et c'est pas du tout ce qu'on se demande. Et sur le canon français, c'est évidemment extrêmement ridicule de vouloir les interdire. Il me semble pas que les organisateurs aient d'autres motivations que celle de faire passer un bon moment aux personnes qui viennent. Donc, c'est absolument pas un projet politique. Donc, il n'y a aucune raison de les interdire. Et enfin, de toute ma vie, en plus particulièrement sur les gens qui disent que c'est une espèce de fantasme des fêtes de village. Alors, je pense qu'en plus les gens qui disent ça n'ont jamais mis les pieds dans une fête de village. Ils disent uniquement ça pour contredire les personnes qui y vont. Mais il me semble que boire du vin et des produits locaux est plutôt fidèle à l'esprit de terroir de français, de la culture française, et que c'est plus ça qui peut embêter les gauchistes, comme on dit, notamment que des députés écologistes qui assument préférer des viandes espagnoles à des viandes françaises si elles viennent de plus loin. En tout cas, c'est plus l'esprit de respect de sa propre terre, de son propre peuple, que le projet politique qui, pour le coup, est fantasmé par la gauche. C'est plutôt elle qui est dans le fantasme que l'inverse.
Et d'ailleurs, là-dessus, peut-être pour essayer d'être très précis, ce qu'il aurait reproché notamment, c'est d'être financé par Pierre-Édouard Sterrin. Est-ce que pour vous, c'est la réelle motivation des militants de gauche de s'attaquer au canon français parce que Pierre-Édouard Sterrin, qui aurait des plans machiavéliques? Ou alors en réalité, c'est un mal qui est plus profond et qui dépasse largement le cadre de ces fameux milliardaires, que ce soit Vincent Bolloré ou Pierre-Édouard Sterrin?
C'est évident que Pierre-Édouard Sterrin est un prétexte pour eux. Ça leur permet de dire attention, c'est des fascistes, c'est l'extrême droite, donc allons-y et tapons. Mais déjà, sur le plan objectif, ça n'a aucun sens. Le canon français existait bien avant que Pierre-Édouard Sterrin investisse et mette de l'argent dans ce beau projet. Et en réalité, tout ce qui s'approche de près ou de loin à glorifier ce qu'est la France, sa culture, son histoire, ses modes de vie, est critiqué très violemment par la gauche. Le Puy du Fou, il me semble que ça n'a jamais été militant politiquement non plus, et pourtant on s'est très attaqué parce que ça met en valeur l'histoire française. On parlait tout à l'heure de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby en France, avec effectivement qui glorifiait, qui mettait en avant ce qu'avait été la France il y a quelques années, quelques décennies. Et pourtant, ça avait été très, très violemment attaqué aussi. Je crois pas que Pierre-Édouard Sterrin avait organisé cette cérémonie-là. Malgré tout le talent qu'il a, il n'en est pas encore là, malheureusement. Vraiment, c'est uniquement un prétexte et il va falloir changer de cheval de bataille pour eux.
Mais alors peut-être, et pour vous lancer, Pierre, à l'inverse, quand vous dites que le Puy du Fou n'est pas militant politiquement parlant, que le canon français ne fait que glorifier le passé de notre beau pays et veut mettre en avant ses traditions, etc. Au fond, la gauche n'a-t-elle pas raison de considérer que tout est politique et la droite n'a-t-elle pas tort d'assumer ce combat en expliquant que oui, il y a une guerre de récits, il y a une guerre de mémoire, il y a une bataille sémantique, il y a une bataille visuelle qui s'opère dans l'espace public, et que par le style vestimentaire, par les choix de restaurants, par les choix de consommation du quotidien, par les choix de spectacles, par les organisations que nous allons soutenir, par le récit qui sera raconté, on mène une guerre politique et que tout, in fine, est politique, elle restera, et que quand la droite répond aux polémiques de gauche en disant mais attendez, on ne fait que la fête et on a juste décidé de manger un bon coup de bœuf avec des potatoes, enfin non, avec des pommes de terre grenaille en l'occurrence, avec des pommes de terre grenaille, ou quand on dit ben non, le Puy du Fou, ils font juste des spectacles sur Charette et Jeanne d'Arc, oh là là, ce n'est que l'histoire de France que nous racontons. Est-ce qu'une partie de la droite ne se ment-elle pas elle-même, alors qu'en réalité, oui, c'est de la politique, et oui, le devoir de mémoire. Et quand on est droite, quand on est patriote, quand on est nationaliste, conservateur, on ne doit pas justement mener cette bataille pour le salut de notre pays et de sa population.
Je suis tout à fait d'accord avec vous là sur ce point-là. Je pense en effet que tout est politique. Évidemment que le canon français est quelque chose de politique. Ça n'est pas partisan, évidemment, mais c'est quelque chose de politique dans le sens où mettre en avant nos terroirs, nos producteurs locaux, nos traditions, est devenu politique. Ça l'était peut-être déjà avant, mais de façon beaucoup plus consensuelle. Aujourd'hui, c'est marqué évidemment patriote plutôt à droite, a priori, enfin, à l'exception éventuellement de Fabien Roussel, mais évidemment que tout cela est politique. Le Puy du Fou qui raconte et qui met en valeur des parties de notre histoire qui ont été un peu trop peut-être oubliées dans les livres d'histoire. Pareil, évidemment, c'est politique, et les choix des spectacles qu'ils mettent et qu'ils créent plutôt que fallait plus choisir Charrette plutôt que d'autres, ou que s'ils avaient fait, pardon, un spectacle sur Robespierre, bon voilà, ça aurait aussi été que de l'histoire, peut-être, mais
ça aurait
eu
moins de charme.
Ça aurait eu sûrement beaucoup moins de charme, et voilà, mais ça aurait été un récit politique tout autre, donc évidemment que je pense qu'il faut pas...
D'ailleurs, pardon de vous interrompre, cher Pierre, mais Robespierre, ils l'ont fait maintes et maintes fois, dans d'innombrables livres, dans d'innombrables récits, et aujourd'hui, parler de Robespierre, en France, c'est parler d'un homme politique, somme toute courageux, qui a permis d'abolir la monarchie, et c'est seulement depuis maintenant quelques années, je crois justement... que le Puy du Fou et Philippe de Villiers ont beaucoup contribué.
Mais c'est pour ça que justement c'est très politique. Enfin,
ouais,
c'est justement ce que
la gauche le fait.
C'est absolument pas ce que je conteste. Justement, au contraire, c'est ce que je dis justement, que c'est le Puy du Fou fait des choix politiques en décidant de montrer des histoires qui sont parfois oubliées, voire tues. Volontairement, et donc voilà, je pense que tout est politique, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Maintenant, sur ce qui nous intéresse, et la gauche qui depuis en effet quelques semaines, on a un peu l'impression qu'ils sont dans une réalité parallèle et qu'ils ont perdu complètement les pieds sur terre. Enfin, là, j'entendais encore hier par exemple Sandrine Rousseau, qui, je sais, vous avez peut-être suivi sa déclaration, chers auditeurs, qui nous disait qu'elle voulait renommer la STEC cadavre de vache.
Ah, mais ça, c'est une vraie info ?
Oui, c'est une vraie info.
Vous êtes sûr ?
Ah oui.
Je l'ai vu passer aussi, mais...
Non,
mais elle a vraiment dit ça, parce que j'ai vu... Ce que j'ai vu passer, c'est cadavre de vache.
Oui, cadavre de
ou
vache,
quelque chose comme
à
ça.
La place des STEC.
Ah ouais, non, mais... Ou de côte de bœuf, mais...
Oui, bah, article RTL, cadavre de vache, plutôt contre côte.
Voilà. Ouais, non, c'est... Mais voilà, mais exactement.
Ah,
mais
oui,
vous voyez,
c'est...
on en est à se demander si on ne s'est pas fait avoir par le Gorafi quand on lit les infos. Mais en fait, ça fait depuis, en effet, maintenant quelques semaines qu'on n'entend plus la gauche parler d'aucun sujet qui peut... Déjà, ils étaient déjà très éloignés des préoccupations des Français depuis pas mal de temps. Mais vraiment, depuis quelques semaines, ils partent dans des délires. Parce qu'à ce niveau-là, c'est complètement du délire. Où ils sont partis dans des trucs, mais à une distance de la réalité, des préoccupations des Français, de tout ce que vous voulez.
Mais alors, comment vous l'expliquez, ça, parce que, je veux dire, donc, justement, je constate que la gauche, on va dire, soyons honnêtes et pour essayer de prendre un peu d'auteur, à droite, il y a une forte propension à expliquer que la gauche est déconnectée du réel, quand nous serions dans notre camp préoccupés par ce que vivent les Français, l'avenir du pays, de sa nation, le respect de son histoire, etc. Bon, sortons un peu, je veux dire, de ces éléments de langage et de ces postures, puisqu'à gauche, évidemment, eux considèrent qu'ils sont au plus proche des préoccupations des Français. Et il est vrai, en revanche, que là, sur ces sujets précis, que ce soit sur... Parce que, typiquement, sur Samuel Paty, on comprend très bien la guerre qu'ils sont en train de mener, leur objectif, et qu'on en parle le moins possible de ces actes islamistes, parce qu'en réalité, ils savent que mécaniquement, c'est ramené à la question de l'islam, dont de l'islam, ça veut dire de l'immigration, d'immigration, ça veut dire de l'identité, et donc en réalité, c'est des points qui sont accordés à leurs adversaires politiques. Mais dans le cas du canon français, objectivement, et d'ailleurs c'est une critique que je trouve assez fine de la gauche, c'est certains qui expliquent qu'ils n'ont aucun problème à boire des bières, à prendre des verres de vin et manger de la viande, et passer des bons moments, sans avoir besoin ni de fantasmer une France qui n'aurait selon eux jamais existé, et surtout pas besoin d'être financée derrière par un milliardaire avec des projets ou des organisations.
Justement, la gauche a très bien compris que le canon français est évidemment politique, dans le sens où ça permet de montrer aux gens ce que pourrait être la France Si
sans
elle...
eux.
Oui, sans eux, ou en tout cas si elle respectait, si elle n'était pas aussi amnésique, peut-être sur ce qu'elle a toujours été, mine de rien, ou en tout cas ce qu'elle était il n'y a pas si longtemps, mine de rien. Des grandes fêtes de village, ça existe toujours, et malheureusement ça existe de moins en moins parce que nos villages se dépeuplent, parce qu'on a un déclin démographique, que l'immigration aussi vient mettre le bazar dans tout ça, où on a évidemment le souvenir tragique de Thomas Perotto qui a été assassiné à Crépol justement dans une fête de village. Et je m'amuse, ou en tout cas je sais pas si c'est tellement amusant, mais je suis un peu étonné, mais pas complètement surpris de voir la réaction d'une certaine gauche qui est là en effet à nous dire que ça n'existe pas, que machin. La gauche parisienne qui n'est jamais sortie du boulevard périphérique, ou en tout cas au moins de la petite couronne, qui vient nous faire des grandes leçons sur ce qu'est la France et ce que sont les fêtes de village et les grands banquets. Si, évidemment que des fêtes comme ça, il n'y a pas besoin d'avoir habité toute sa vie dans un village de 200 habitants pour savoir que ça existe et que ce sont des moments qui sont extrêmement importants.
Cher Pierre, vous me faites une transition parfaite. Ce qui est intéressant dans ce que vous venez de dire, et ça nous permet de faire le lien avec notre actualité qui se déroule en ce moment au Sénat, mais il se trouve que ce que vous pointez là, c'est la faillite de deux phénomènes. Un, c'est la fin de ce lien social qui est en train de se désagréger année après année avec des facteurs évidemment multiples, que ce soit l'émergence des réseaux sociaux, que ce soit évidemment le Covid qui a contribué, c'est évidemment la perte d'un commun, la perte d'un récit et d'une histoire commune. Là, je parle évidemment de ces populations fragmentées sur les questions identitaires, mais aussi en réalité sur les questions religieuses, à savoir que le commun n'est évidemment pas le même quand on est athée, catholique, juif ou musulman. Donc évidemment, ce commun qui se désagrège y participe beaucoup. Mais la deuxième chose, et c'est là où c'est intéressant peut-être, et c'est là où je serais curieux d'avoir votre avis, Com, mais c'est sur c'est évidemment sur l'État qui ne remplit aujourd'hui plus son rôle. Parce que quand je dis l'État, évidemment, je le prends au sens très large, où j'inclus les mairies d'Ange, j'inclus les strates intermédiaires, que ce soit les départements, les régions, les préfectures et toutes ces choses qui permettent à l'État de fonctionner et de vivre, que ce soit par les fonctionnaires ou que ce soit par ses élus, est-ce qu'en réalité le canon français n'est pas un remède à la faillite de l'État sur le plan du lien social, à savoir que l'impression que me fait le canon français de l'extérieur, c'est aussi et beaucoup d'être un endroit de retrouvailles entre Français qui n'ont plus l'occasion de festoyer, qui n'ont plus l'occasion de faire la fête, qui ne veulent plus aller en boîte de nuit par ce craignos, qui n'ont plus envie ou qui n'ont plus la possibilité de rencontrer d'autres gens. Est-ce que derrière tout ça, il n'y a pas cette faillite et de l'État et du lien social de façon plus globale?
Oui. Et je laisse comme développer.
Je profite de ce petit blanc pour, comme ça, je vous laisse peut-être réfléchir chacun.
J'ai beaucoup de choses à dire.
Pour, on va faire une pause bambino alors.
On peut peut-être faire la pause après, comme ça, ça nous arrêtera.
On va faire une vraie pause maintenant pour pouvoir prendre un peu de force avant de vous écouter.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Qui renforce,
Et nous sommes de retour sur Radio Courtoisie. La pause fut trop courte pour que je puisse me reposer à l'idée de reprendre encore pour 37 minutes avec vous. Chers auditeurs, vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, de son émission Prolongation qui a lieu toutes les deux semaines de 21h30 à 23h sur Radio Courtoisie, la radio de toutes les droits, de tous les talents et qui promeut le débat. Et puis j'en profite avant justement de parler de la faillite de l'État pour vous rappeler que vous pouvez donner à Radio Courtoisie et défiscaliser ses dons, s'il vous permettra évidemment de choisir là où va votre argent et peut-être d'empêcher Patrick Cohen et certains de ses copains du service public de prendre des taxis à plus savoir quoi en faire et de faire des réceptions à ne plus savoir quoi faire des petits fours le lendemain matin. Et peut-être
douce à Cannes,
de permettre à Radio Courtoisie d'avoir de nouveaux contributeurs et de nouveaux moyens pour faire entendre une nouvelle voix. Cher Com, cher Pierre, merci d'être avec nous ce soir. Nous étions en train de parler de cette faillite concernant le lien social, mais aussi la faillite de l'État dans sa capacité à produire du commun et à produire du social et à produire évidemment aussi un corpus à ses concitoyens, comme peut-être.
C'est sûr que le succès du canon français est hérité de l'épidémie de solitude qui peut exister, de la faillite, enfin, pas forcément de la faillite de l'État, parce que c'est pas à l'État d'assurer les relations sociales, mais en tout cas du délitement du lien social, avec enfin, certains villages existent encore, il existe encore beaucoup de villages, mais l'esprit village, lui, a sûrement beaucoup disparu en France. On dit aussi que le canon français agit comme une très grande agence matrimoniale, très efficace pour que les gens se rencontrent. C'est le lien par excellence, finalement.
Vous avez l'air très au courant, peut-être, vous...
Non, parce
non,
que alors,
vous avez des informations, peut-être.
J'ai jamais eu la chance d'aller au canon français, mais des amis...
Et vous êtes célibataire.
Je vais donc y aller très rapidement, histoire de voilà,
de pouvoir
voir, même pouvoir tester... Si,
il y a le
vrai.
Pèlerinage de Chartres aussi qui s'élance demain, apparemment.
Oui, c'est vrai que
ça peut être
y en a des
également.
Multiples des agences matrimoniales efficaces. Mais donc, effectivement, c'est une conséquence, je pense, effectivement, de tout ça. Et en fait, ça montre aussi, d'ailleurs, qu'on peut... Enfin, c'est les initiatives privées qui permettent de rétablir tous ces liens. Et que c'est... que même si on dépeint des grands méchants derrière le canon français... leur action brute sur la société est purement bénéfique.
Mais justement, cet impact dont vous parlez, il est important et il montre que les mécènes, que le mécénat en fait, de façon générale, permet à tout un tas d'initiatives d'exister, d'avoir un impact concret. Là où, pardon, je vous relance sur cette faillite de l'État que vous réfutez un petit peu, c'est que ce soit les fêtes de village, que ce soit, par exemple, à Carcassonne ou à Castres. Ou encore, si je vous prends l'exemple de Romain Lopez ou à Moissac, ou si je vous prends l'exemple de la ville d'Ayange, une ville qui est dirigée par le Rassemblement National depuis maintenant plusieurs années, ou alors en Orange qui était dirigée par les Bompards. À Orange, ils ont relancé tout un tas d'initiatives de festivals autour de la fête du cochon, autour de fêtes traditionnelles, qui rameutent et qui rassemblent énormément de jeunes, parce que la festivité est au rendez-vous, parce que la sécurité est au rendez-vous. Et alors que c'est une mairie d'ultra-ultra-droite, selon leurs détracteurs, ils arrivent, ces mairies-là, que ce soit Ayange, Orange ou les villes que je viens de citer, à obtenir de nouveaux stores plus. Alors, ce n'est pas l'État centralisateur dont je parle, évidemment, là, c'est si l'État laisse évidemment sa place à ses élus locaux. Mais vous voyez ce que fait le canon français. En réalité, l'État, non pas devrait organiser des grands banquets, mais quand ils vous organisent et financent indirectement ou directement la fête de la langue populaire, de la nouvelle langue, la Créteil, pour 72 000 euros, je me dis que peut-être organiser un buffet ou un banquet à Créteil autour de la fête nationale, par exemple, c'est quelque chose qui aurait peut-être plus de sens.
Mais effectivement, ça va avec le choc culturel qu'il y a en ce moment, dans le sens où on va avoir des mairies qui vont vouloir promouvoir des cultures qui ne sont pas les nôtres, donc effectivement, en termes de lien social, c'est beaucoup moins intéressant. L'atelier des langues de Créteil, à titre personnel, moi, ne m'intéresserait pas forcément, alors que...
Honnêtement, là, en l'occurrence, je crois que ça intéresse personne, même à Créteil, pour être très franc. Oui, vas-y.
Et alors que les initiatives privées, où les gens décident vers quelle culture, d'une certaine manière, ils veulent se tourner, en l'occurrence, la leur, la française, spontanément, ils vont même payer de leur propre poche pour pouvoir.
Ouais, mais c'est là où comme c'est intéressant, n'est-ce pas là le rôle de l'État d'imposer?
Si, normalement, mais dans le contexte actuel où l'État ne sait plus ce qu'il veut défendre, ne sait pas ce qu'il veut mettre en avant, bah, c'est aussi une bonne nouvelle de constater que spontanément, les initiatives privées, les entrepreneurs, les Français se tournent vers des choses qui leur permettent de perpétuer cet héritage.
Et c'est de montrer qu'ils ont un pouvoir d'action évidemment très fort. Pierre, sur ces sujets-là, bah, peut-être sur cette faille du lien social et
c'est ça, c'est,
et de l'État.
C'est
et avec, je vous lance dessus peut-être, mais le parallèle saisissant, qui n'est pas inintéressant, pardon, mais entre la polémique sur le Master Poulet et le Tastic Rousti, qui rameute...
Non, mais
attendez,
vous me devancez, j'allais en parler.
On en rigole, et de l'autre côté, le côté un peu presque caricatural. Enfin, pardon, moi, j'ai jamais besoin de payer 120 balles pour aller bouffer une côte de bœuf avec des amis. Je la fais chez moi et j'invite 5 copains et on prend des bouteilles de rouge et on va passer un très bon moment. Et à l'inverse, on le voit en ce moment, le Master Poulet Tastic Rousti, c'est un peu comme la mode du 6-7, comme on dit chez les Jones. Mais voilà, c'est un vrai phénomène de société.
Ben exactement, je pense qu'il y a plusieurs choses en effet où l'État est complètement défaillant, non pas que ce serait à l'État d'organiser des grands banquets ou de faire des fast-foods, mais il y a en effet un certain nombre de domaines où l'État est de plus en plus incompétent depuis des années, et naturellement, la nature ayant horreur du vide, justement, il y a des initiatives privées, religieuses, culturelles ou autres qui ont pris petit à petit la place que ça occupait. Et aujourd'hui, on le voit bien, que ce soit le scoutisme pour former des citoyens éclairés et respectueux de leurs prochains, que ce soit, mais aussi de l'autre côté, justement, l'islam qui a pris une place extrêmement importante justement dans ces territoires où on appelle ça les territoires perdus de la République, où justement c'est des endroits où...
Les centristes appellent ça comme ça.
Voilà, mais donc c'est des endroits où en fait les gens ne parlent même pas forcément français et où en fait l'État n'a plus rien de comme présence. Et où, forcément, la nature ayant horreur du vide, eh ben, ce sont les imams qui font la loi. Il y a des endroits comme ça où, d'un côté comme de l'autre, en effet, il y a des initiatives qui ont perduré. Et on parlait, en effet, là, du canon français qui organise ces grands banquets, là où, en effet, peut-être qu'on a perdu le sens de faire ça. Mais je pensais aussi, pendant enfin, juste avant le Bambino... au moment où vous m'avez honteusement interrompu, aux initiatives plus associatives sur la nuit du bien commun.
Si c'était à refaire, je le referais.
Eh bien, c'est très honnête de votre part. Non, mais voilà, je pensais aussi à ces initiatives de la nuit du bien commun, où on se dit que, ben, en fait, on a besoin d'organiser des grandes soirées pour justement mettre en avant des associations qui font le bien et qui œuvrent pour la collectivité, là où, bah, en fait, ce sont des rôles que l'État a perdus, et on ne devrait pas avoir besoin de toutes ces associations si l'État n'était pas défaillant. Et donc je pense qu'en effet, il faut à la fois se réjouir que cet espace-là ne soit pas laissé au vide, ou en tout cas à nos adversaires. Donc c'est important que ces espaces-là restent et puissent rester des lieux de formation intellectuelle, même citoyenne au sens beaucoup plus large du terme, où je parlais du scoutisme, où ça forme des personnes qui font le bien dans la société. Et donc je pense que toutes ces choses-là, c'est important de ne pas les laisser à nos adversaires, mais pour autant, nos adversaires font la même chose aussi en face. Donc le combat culturel, maintenant, il est partout, et plus l'État sera défaillant, plus le combat culturel sera intense. Parce que ça enferme aussi d'une certaine façon, et il y a une forme de déterminisme dans tout ça, où forcément, si on a été éduqué par l'imam de son quartier, ou si on a été éduqué par le club de football ou par le club de rugby, et bien évidemment que ce seront des façons de voir le monde qui seront extrêmement différentes, et voire parfois antagonistes et irréconciliables.
Là-dessus, c'est l'actualité qui... C'est une actualité, certes, qui fait peu de bruit, mais qui n'est pas inintéressante... idéologiquement parlant, c'est la commission d'enquête parlementaire qui a lieu au Sénat, qui a été diligentée par Madame Brossel, une sénatrice, elle se adjoint à la propreté à Paris et à la sécurité, a une carrière peu reluisante politiquement, mais qui depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, et a réussi à lancer une commission d'enquête qui se veut anti-stérin et qui se veut à minima pour contrôler ses initiatives. Alors, certes, c'est l'occasion aussi pour beaucoup d'acteurs associatifs courageux dans le monde éducatif, dans le monde de la culture, de s'exprimer et d'expliquer leur réussite entrepreneuriale ou associative. Mais derrière, n'y a-t-il pas une volonté de la gauche, comme de Bréval, de confisquer ce pouvoir d'action aux mécènes et aux initiatives privées ?
Effectivement, quand les élus de gauche voient que les Français préfèrent payer très cher pour des services qui pourraient être gratuits. Je pense en particulier à l'école. On voit qu'il y a de plus en plus d'élèves dans leur contrat.
Notamment un sondage de l'IFOP pour la Fondation pour l'école.
Effectivement, la Fondation pour l'école a fait un immense travail sur ce sujet-là. Et on voit qu'il y a des parents qui sont prêts à payer très très cher des écoles qui pourraient être gratuites s'ils mettaient leurs enfants dans l'école publique. Et les élus de gauche, au lieu de se demander pourquoi, dans un contexte où le pouvoir d'achat est de plus en plus restreint, pourquoi des parents sont capables de faire ce sacrifice-là, ils se disent non, on va aller interdire les personnes qui cherchent à produire un meilleur service, parce qu'en réalité, quand les écoles hors contrat se soumettent à la loi du marché, donc elles sont obligées d'être meilleures, en tout cas de proposer un meilleur service, elles vont aller chercher ces personnes-là. Et en réalité, on se rend compte qu'il n'y a quasiment aucun problème, qu'il y a déjà énormément de lois qui existent. Les sénatrices, en l'occurrence, vu que c'est une présidente et une rapporteure qui s'occupent de cette commission, les sénatrices sont obligées d'aller auditionner tous les fonctionnaires qui sont sur ce dossier-là, en particulier le directeur général de TRACFIN, et de leur poser des questions, en fait, de se rendre compte que, bah oui, il y a des problèmes, mais ça avance petit à petit, et que, fondamentalement, il n'y a pas de grands milliardaires qui cherchent à faire avancer des idées cachées. Et voilà, donc ils font passer dans leur tribunal, un par un, toutes les personnes, une par une, toutes les personnes qui ne vont pas dans leur sens, et sans jamais se remettre en question.
Vous êtes Pierre là-dessus, parce que vous m'avez encore une fois fait la transition de façon impeccable. Vous avez parlé évidemment du rôle de différentes initiatives.
Je suis très bon ce soir, mine de rien, sur vos transitions.
Vous n'êtes pas mauvais, vous êtes même plutôt très bon, et puis vous avez cette double qualité, une d'être là, contrairement, encore une fois, je le rappelle, à Étienne Darjac, je pense également à Emmanuel de Beaumune, à Hippolyte Leurblanchet, et à tout un tas de sombres personnages qui ont préféré l'amour de la bière un vendredi soir à l'amour de la culture et du débat dans cette émission. Donc vous avez cette première qualité-là, cher Pierre, et la deuxième, évidemment, c'est de répondre impeccablement à la première condition de la qualité évoquée précédemment.
Vous m'avez perdu.
C'est bien ce que je pensais. Non, écoutez, cher Pierre, pour être très sérieux, merci encore. Vous êtes en effet très bon. Alors qu'il faut le dire, et j'en prends évidemment toute ma part, cette émission a un fil conducteur qui est sur un carnet et qui, Dieu merci, ne peut pas être filmé, que j'ai sous les yeux, où je suis plutôt en train d'être monsieur champion, pardon, en train d'essayer d'identifier des hiéroglyphes plutôt que autre chose. Pierre,
Stanislas s'écrit très mal. Enfin, pas de mouche. Sur ce carnet, pas en général. Hein,
ah oui, voilà. comme Victor Hugo. Non, j'ai un grand problème avec Victor Hugo, mais ce n'est pas l'objet de l'émission, même si peut-être nous parlerons de littérature tout à l'heure. Vous avez parlé évidemment de ces initiatives privées qui permettaient l'instruction et qui permettaient ce lien social. Vous en avez parlé, vous avez évoqué cette idée d'agence matrimoniale. Un autre événement a lieu ce week-end, c'est le pèlerinage de Chartres, qui rassemblera, il me semble, près de 22 000 personnes de Paris à Chartres, et quasiment aussi un 10, presque
20 000, il me semble, de Paris à Chartres.
20 000
ouais. Et c'était 17 000 il y a deux ans, 18 000... Enfin, globalement, il y a 1 000 de plus tous les ans.
Et si je ne dis pas de bêtises, près de 10 000 de Chartres à Paris, à peu près entre 7 et 10 000.
Je n'ai pas les chiffres pour
vous
cette partie-là.
Vous n'avez pas revendiqué ces chiffres-là
J'avoue que je n'ai pas regardé les chiffres du pèlerinage de Chartres à Paris.
Je ne demanderai pas à Emmanuel de Beaumune, mais je me renseignerai quand même.
Et donc, je ne sais pas si ce sera le plus objectif d'entre nous.
D'une certaine façon, si je me permets de filer la comparaison.
La métaphore.
En tout cas, ce qui est certain...
Respecter les expressions françaises.
Ouais, mais en tout cas, ça a plus à être une comparaison qu'une métaphore, là. Mais si l'État est défaillant sous tout un tas d'aspects, n'y a-t-il pas, à travers le pèlerinage de Chartres, une autre lecture à faire, en plus, évidemment, de celle classique et du renouveau catholique, de cet amour de la jeunesse pour la foi, de baptêmes qui, pour les adultes, pas pour les plus jeunes, et celle qui est intéressante, explose, enfin pour quand j'y ai plus jeune, pour les nouveau-nés. Mais n'y a-t-il pas aussi une défaillance de l'Église française, des évêques de France, qui sont incapables d'organiser un événement avec une telle ferveur en France, avec des moyens qui sont bien, bien plus supérieurs comme.
Bah, là-dessus,
je suis un peu provoque dans ma question, je vous le confirme. Vous connaissez évidemment vos liens avec le clergé français, et notamment avec les évêques de France.
Évidemment, mais non, sinon, y a quand même un élément qui est très important là-dessus, qui est qu'effectivement, on peut douter parfois de cette capacité-là, mais cette année, pour la première fois, il me semble, le Frat et le pèlerinage de Chartres vont prier l'un pour l'autre en même temps. Pourtant, on sait que c'est pas exactement la même manière de
je sais même pas ce que c'est le Frat.
De vivre sa foi.
Expliquez aux auditeurs de Radio Courtoisie qui ont la même chance que moi de ne pas connaître le Frat.
Frat, c'est... Alors, je n'y ai jamais participé, mais si je résume bien, c'est... événement avec des milliers de jeunes qui sont soit des lycéens, soit des collégiens, soit à Lourdes, soit à Jambeville.
Non, mais c'est très très bien, évidemment.
Donc cette année, ce sera les collégiens à Jambeville.
Merci de la précision,
Vous avez fait le Frat ?
Jamais.
Hop, hop, hop.
Non, jamais. Non,
ah, mais c'est très bien, évidemment.
J'ai fait le pèlerinage à Lourdes, mais pas...
N'ayant jamais fait le frat ni le mérinage de Chartres, je suis assez impartial sur l'analyse. Mais,
N'étant pas catholique, je suis assez impartial pour enfin, parler du pape.
Donc effectivement, c'est un beau geste, surtout à un moment où il peut y avoir des dissensions particulières entre les différentes manières de pratiquer sa foi. Ça peut être un pas, justement, de la part de la Conférence des évêques de France pour une unité, en tout cas entre tous ceux qui se réclament du Vatican.
Pierre, peut-être sur, et globalement, ce pèlerinage, mais aussi, parce qu'on va en parler dans 2 minutes, on va parler un peu, justement, vous qui avez fait, ce pèlerinage, un peu de ce qu'il inspire et de ce que l'on vit quand on est pèlerin à Chartres, peut-être vous aussi sur... Ce renouveau impressionnant, en tout cas cette dynamique, que ce soit avec le frat évidemment, mais c'est aussi avec le pèlerinage Chartres. Comment l'expliquez-vous? Est-ce que vous le ressentez? Parce que, disons-le pour nos éditeurs, les deux personnes talentueuses avec lesquelles j'ai la chance de discuter ce soir sont toutes les deux âgées de 17 ans et demi.
C'était évidemment une blague. Pour je nos suis éditeurs avec, qui ne l'auraient pas compris.
Je suis avec Stéphane Zweig et Arthur Rimbaud, donc très jeunes, mais évidemment particulièrement brillants. L'un s'est suicidé, l'autre est mort en Afrique, enfin est mort à Marseille, amputé d'une jambe. Donc je vous laisse choisir la personne à qui vous voulez ressembler.
Non, mais voilà, il faut.
Spoil Rimbaud.
Je pense que. Et il me semble qu'on avait eu cette discussion-là déjà l'année dernière, où on s'émerveillait, parce qu'il faut s'émerveiller.
Vous voulez dire qu'on refait les mêmes sujets chaque année, Pierre?
Alors. Je ne me permettrai pas de dire que vous êtes très écologiste dans vos sujets d'émission, cher Stanislas.
Oh, l'idée, c'est que vous puissiez enfin comprendre le sujet.
Je vous trouve très désagréable. On s'émerveillait justement, parce qu'il faut s'émerveiller en effet de ce renouveau-là qu'on voit et qu'on constate tous les ans avec justement, on ne sait pas jusqu'où ça ira le nombre de participants à Chartres, où là, il me semble que les trois quarts des inscriptions étaient parties en 3 heures au moment du dimanche de Rameau quand elles ont été ouvertes. Il y a un certain nombre d'éléments qui sont en effet très, très positifs et plein d'espoir et plein d'espérance pour que ce soit pour notre pays comme pour notre foi aussi, où on se dit que voilà, il y a un beau renouveau et on n'a pas tout perdu avec une génération de boomers 68ards qui ont un peu tout désacralisé. Et on voit que la jeunesse, malgré tout, même si elle n'a pas été forcément baignée là-dedans par la famille, par le premier lieu finalement en fait, de transmission de la foi, l'a fait d'elle-même par les amis, tout ce lien social qu'elle est allée trouver ailleurs que dans les instances de la République. Et on voit qu'il y a un certain nombre de belles initiatives comme ça qui rassemblent de plus en plus de monde. Et d'ailleurs, de plus en plus de monde de tous les horizons. Je pense qu'aujourd'hui, dans la version qui va de Paris à Chartres, tous ne sont pas forcément des fervents catholiques traditionnalistes. Il y a un certain nombre de pèlerins qui sont vont à la messe sous les deux formes, vont dans la forme ordinaire. Finalement, c'est des profils très variés, si ce n'est qu'ils ont pour beaucoup quand même ce point commun-là, c'est qu'ils sont très jeunes et avec une foi débordante.
Et peut-être, Pierre, ce qui est amusant pour la petite anecdote, c'est le pèlerinage de Paris à Chartres étant aujourd'hui en effet en 3 heures plein à craquer, certains qui justement ne sont pas nécessairement adeptes de la messe traditionnaliste, mais qui sont encore moins rattachés à la fraternité Saint-Pédis, se retrouvent par l'envie de faire ce pèlerinage ce week-end de Pentecôte à faire le pèlerinage de Chartres à Paris, et des amis côtoyant la fraternité Saint-Pédis le racontent, et certains, tout jeunes baptisés ou en tout cas convertis récemment, se retrouvent à marcher et à accompagner et à traverser ces 3 jours avec Saint-Pédis. Et évidemment, c'est des choses qui sont très belles. Peut-être aussi sur le poids, évidemment, et religieux, mais aussi identitaire de ce pèlerinage.
On le sait, Charles Péguy a une place prépondérante dans ce pèlerinage. C'est son épouse, par la suite, suite à son, évidemment à sa tragique mort lors de la Première Guerre mondiale, le fera elle aussi. N'y a-t-il pas derrière ce pèlerinage, d'un point de vue spirituel, une envie, un renouveau identitaire, certes très commenté, très souvent commenté, mais qui, pour une fois, permet de passer du mythe, on va dire, de l'identité française, très racée, très, très un peu mili-tape à l'œil, vers la foi, quand, malheureusement, peut-être, pendant un certain temps, enfin, malheureusement, en tout cas, c'était peut-être parfois dans l'autre sens, où c'était des religieux qui allaient vers le politique et vers le militantisme, et qui délaissaient peut-être le spirituel pour un mythe plus politique.
Bah, on voit aujourd'hui, en tout cas, que même dans le clergé, le retour notamment à la soutane ou à des marqueurs plus identitaires apparaissent donc de plus en plus dans le clergé, dans les tout nouveaux prêtres en particulier. Et je lisais l'autre jour une analyse, mais je ne sais plus de qui elle était, donc ça ne va pas faire honneur à son auteur, mais je me demande si c'était pas Julien Rochedy ou Pierre Valentin ou un autre grand esprit de ce type, et qui faisait remarquer que c'était pas tant l'Église qui était de gauche, mais qu'en réalité, à la fin du XXe siècle, l'Église n'a fait que suivre l'ère du temps, en proclamant notamment l'ouverture des frontières, le fait qu'il n'y avait plus de règles et que tout devait être ouvert, et qu'aujourd'hui, comme l'ère du temps est plutôt à respecter tout ça, à respecter des règles, à être plus, avoir plus de rigueur sur certains aspects donc de l'identité, mais aussi de la foi, l'Église en fait suit ce parcours-là. Il y aura de plus en plus de prêtres identitaires, et donc effectivement que l'identité et la foi vont aussi se retrouver reliés de fait.
Je pense en effet que je l'aurais pas forcément formulé comme ça, parce que ça donne une impression très politique de l'Église, là où je pense que il faudrait peut-être la sortir de, dans quel que soit le sens, des considérations très politiques terre à terre, parce que c'est pas son rôle. Je pense que ça doit être un rôle qui est justement beaucoup plus, pas supérieur, mais avec beaucoup plus de hauteur, et qui doit donner des caps, des idées de ce qu'est le bon, de ce qu'est la vérité, sans forcément rentrer dans des considérations très terre à terre et de base politique. Mais en effet, je pense que malgré tout, l'Église de France, mais même l'Église du monde, est faite des membres qui la composent. Et donc, naturellement, il y a des sensibilités politiques et sur tous les sujets d'ailleurs qui s'expriment. Et c'est vrai que statistiquement, voilà, si la moitié de la France est à droite, a priori, la moitié des prêtres et du clergé le seront aussi, si c'est représentatif. Et d'ailleurs, on pourrait se dire que ce sera d'ailleurs même un peu plus que cela, vu le découpage sociologique qu'on pourrait faire. Mais
attention au prisme, justement, du petit milieu, peut-être.
Non, bien sûr.
Cato tradit Versailles, des grandes villes.
Bien évidemment.
Du scoutisme. Mais les églises de France, c'est aussi beaucoup de, et beaucoup de vides, mais aussi beaucoup de paroisses qui tiennent bon grâce à des prêtres, justement, 68 arts, et des sacristaines,
oui,
tout à l'heure passé.
Les prêtres, en l'occurrence.
Non, mais je vois ça en représentativité. Oui, mais enfin, vous savez, ces jeunes prêtres en province, ils se retrouvent aussi confrontés à des réalités bien concrètes où bouger une paroisse qui a les mêmes habitudes depuis 25 ans, c'est pas évident. Et allez-y.
C'est l'histoire des trois prêtres du diocèse de Toulon qui sont allés dans la Somme, dans l'Oise, je sais plus.
Exactement.
Et qui effectivement n'avaient pas les mêmes habitudes, et eux étaient plutôt jeunes et se retrouvaient avec des populations plus 68 ans, on va dire, et ça s'est très mal passé.
Et c'est mal passé. Et à l'inverse, là où la communauté de Saint-Martin, par exemple, fait un travail assez impressionnant et intéressant, c'est qu'ils fonctionnent par petits groupes, par binôme ou parfois en trinôme, et se rendent dans certaines villes et essayent d'imposer une communauté et se soutiennent mutuellement. Mais peut-être pour revenir sur ce que vous disiez, Pierre, et puis si on parlait de pays, pour faire le lien, c'est qu'il a cette phrase bien connue, qui est l'une des phrases les plus connues, mais c'est « tout commence en mystique et finit en politique ». Et il y a un peu de provocation, évidemment, en disant ça, et ça s'inscrit dans une période où il était confronté à la mystique républicaine qui faisait fureur dans ces années-là. Maintenant, n'y a-t-il pas parfois justement cette envie trop forte du politique de vouloir absolument rendre partisans ces moments de communion spirituelle à l'heure où justement peut-être que, en tant que catholique, et c'est d'ailleurs le message du pape Léon XIV encore récemment, et je m'imagine c'est le message qu'il portera en France à sa venue en septembre, c'est que il y a une complexité dans la chose qui dépasse largement et transcende largement les clivages partisans.
Oui, bah, je pense qu'en effet, c'est un point qui est assez fondamental. Les politiques, en fait, la religion, pardon, occupe une place de plus en plus importante, justement, et ça revient sur le sujet précédent, où l'État ayant abandonné un certain nombre de missions, l'État a laissé un espace béant sur certains endroits, là où, à l'inverse, au moment de la Révolution, l'État avait voulu remplacer la religion dans un certain nombre de sphères, on assiste dans certains domaines à l'effet un peu inverse, où la religion a repris les espaces que l'État ne tenait plus, notamment l'éducation, où on observe, voilà, des écoles, que ce soit les écoles privées catholiques, mais aussi dans les écoles musulmanes, où on a vraiment la religion qui fait le rôle de l'État à sa place, parce que l'État ne le fait plus, et on voit d'ailleurs même au-delà des confessions, les gens fuient vers le privé parce que le public est devenu d'un niveau assez catastrophique. Et donc forcément, la religion ayant cette place qui est de plus en plus importante, le politique voulant se faire élire et voulant porter son projet pour le pays, ou en tout cas pour son territoire, le plus haut possible dans les élections, est obligé d'aller sur des sujets qui intéressent et qui sont importants pour les électeurs. Donc évidemment que ils vont aller sur les sujets idéologiques, religieux, culturels, philosophiques, parce que c'est comme ça aussi qu'on peut affirmer des positions et dire, voilà, je m'inscris dans tel ou tel courant de pensée, et que les électeurs puissent s'identifier derrière à tel ou tel courant idéologique ou à tel ou tel programme politique.
Pour les 5, merci Pierre, merci Tom, pour les quelques minutes qui nous restent, il nous reste 4 minutes d'émission entre nous. Nous avons la tradition chez Prolongation, vous le savez, de parler des lectures de chacun et peut-être de conseils ou recommandations de lectures que nous pourrions donner à nos fidèles auditeurs. Je vous en ai parlé, j'ai évidemment parlé des sorties en début d'émission, mais peut-être avez-vous récemment, Pierre ou Com, lu des livres qui mériteraient d'être partagés, que ce soit des livres liés à vos activités ou...
Alors moi, ça va être très très rapide, et c'est pas un livre que j'ai lu, mais justement c'est le livre dont vous parliez, du malaise là, dans la génération Z de Pierre Valentin, que je recommande à nos auditeurs comme je me le recommande à moi-même. Mais étant sorti hier, je n'ai pas encore eu le temps de le lire. Où il aborde le sujet pas du tout sous l'angle classique, un peu paternaliste et ringard c'est les réseaux sociaux qui détruisent la jeunesse, et sans aller tellement chercher plus loin. Mais là où c'est assez intéressant, c'est qu'il va chercher justement beaucoup plus loin. Il remonte, vous l'avez dit, dans l'historique de ces dernières années. Il va chercher vraiment les causes profondes. Et il ne se limite pas dans un discours de superficie qu'on peut entendre assez régulièrement, à dire que c'est la faute des jeux vidéo si les jeunes y sont violents, c'est la faute des réseaux sociaux si les jeunes ils écoutent plus à l'école, c'est la faute de tout ce qu'on veut, pour ne pas avouer ses propres manquements, et notamment dans le monde politique où si on a une jeunesse qui est très largement abrutie maintenant, c'est aussi parce que l'école est complètement défaillante et qu'elle n'apprend plus aux élèves à réfléchir, à écrire correctement. On fait des polémiques sur le fait que on va à nouveau corriger les fautes d'orthographe au bac. Oui, bon, ça me paraît quand même assez de bon sens. Enfin, voilà, toutes ces choses-là, où en effet, on va dans une réflexion qui est vraiment beaucoup plus profonde. Et donc, je pense que tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec le fond, mais en tout cas, ce sera des éclairages qui sont très intéressants à aller explorer dans le malaise dans la génération Z de Pierre Valentin.
Et peut-être, comme si je crois que vous lisez Max Gallo.
Oui, effectivement, j'ai pas encore tout à fait terminé, mais la Révolution française de Max Gallo, Alors Max Gallo avait le défaut d'être socialiste, mais il avait la qualité d'avoir écrit des livres sur notre histoire. Et c'est intéressant parce qu'il commence à peu près au début du règne de Louis XVI pour chercher les racines de la Révolution. Et c'est un événement qu'on étudie beaucoup, dont on entend beaucoup parler, mais en réalité dont on ne connaît pas si bien les causes profondes en se fondant uniquement sur ce qu'on apprend à l'école. Et donc notamment les jeux de ministres, les jeux de pouvoir, avec le rôle de Marie-Antoinette à l'époque, qui me fait penser au rôle de Brigitte qu'on peut lire dans le livre de Florent Tardif.
Enfin, vous avez lu le livre
j'espère qu'il n'y aura pas de révolution. Ouais, j'ai commencé, c'est assez marrant, ouais, un coup presque parfait.
C'est bien écrit ?
C'est bien écrit, ouais, c'est pas de la grande littérature, mais ça se lit très bien. Et c'est marrant parce que c'est un journaliste politique, mais qui a ce côté aussi... il raconte quand même une histoire de couple. Et on voit, ça permet de découvrir Macron sous un autre angle, même si on sait que, comme il leur a parlé, il a pu un peu dire ce qu'il voulait. Mais c'est quand même très intéressant d'avoir un livre entier sur ce couple dont on a parlé, dont on ne connaît pas grand-chose.
Écoutez, cher Claude, merci pour ces éclairages et ces tests de lecture. Merci, Pierre, d'avoir participé à cette émission. Je vous donne rendez-vous maintenant dans 2 semaines pour une prochaine émission de prolongation avec, encore une fois, peut-être... Étienne Darja qui n'est pas là. Non, évidemment, je rigole, il nous reste quelques secondes. Merci de nous avoir écoutés. Je vous souhaite un très bon week-end de Pentecôte, un bon pèlerinage si vous le faites, et à très vite sur Radio Courtoisie. Et je vous invite évidemment à soutenir cette belle radio. Merci.
Venez d'entendre Les Prolongations dirigées par Stanislas Rigaud, diffusées en direct sur Radio Courtoisie le 22 mai 2026 de 21h30 à 23h et réalisées par Axel. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.